Bonsoir. Voilà.
Oui, donc je disais que j'étais très heureux, je m'apprête à dire que j'étais très heureux d'animer cette rencontre avec Alice Zeniter autour de votre sixième roman, c'est ça? Je fais pas d'erreur.
Je me perds dans les comptes, ouais. Moi aussi, donc si jamais il y a une erreur, je la relèverai pas.
On a parlé 3 minutes là avant d'entrer, d'arriver ici, et je disais à Alice que vous avez commencé à écrire et à être publié très très tôt, particulièrement tôt, je crois, à l'âge de 16 ans. Et donc, ce nouveau roman s'appelle « Comme un empire dans un empire ». Il est publié chez Flammarion. Je précise que votre précédent roman avait eu le Goncourt des lycéens, c'était L'art de perdre, et que cette fois, on suit dans ce roman, je dirais qu'il y a deux personnages, en fait, qu'on suit d'abord en écho, avant que leurs existences ne se croisent, que ces deux personnages... a priori sont très différents. Donc il y a Antoine, qui a une trentaine d'années, qui est un brillant jeune homme, ambitieux jeune homme, assistant d'un député PS, assistant parlementaire, normalien, je crois. Hein,
c'est... Non, Sciences Po.
Sciences Po, pardon, j'ai confondu. Il vit à Paris, il arrive de Bretagne, il a grandi dans une famille de la classe moyenne, et je le précise parce qu'on sent qu'il... vit son expérience de transfuge de classe, comme on dit, comme disait le sociologue, de manière un peu problématique. Ça le questionne beaucoup. Antoine, c'est quelqu'un d'assez sophistiqué, d'assez cérébral, tel que je l'ai perçu. Et il a un rêve, c'est une aspiration, c'est d'écrire un livre sur la guerre d'Espagne. Donc ça, c'est Antoine. Et l'autre personnage... phare clé de cette histoire, c'est elle, une jeune femme qui, elle, a grandi en banlieue parisienne et qui est une hackeuse. Donc le monde se sépare de son point de vue entre le dedans, c'est le monde des ordis, et le dehors. Et c'est une jeune femme aussi qui a une conscience assez aiguë de la justice. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçue. Donc, deux univers très différents, deux profils très différents, et pour autant, ces deux personnages, ils ont plusieurs points communs. Ils sont assez solitaires. Moi, je les ai un peu... je les décris un peu comme des passagers clandestins, finalement, dans l'univers dans lequel ils évoluent. Ils ont un monde intérieur très riche, et c'est peut-être cet empire dans un empire, c'est peut-être de là que vient le titre, c'est une hypothèse, je vous poserai la question tout à l'heure. Donc, ils se sont construits un monde intérieur, et ils sont, à leur manière, engagés. Ils essaient de changer les choses en agissant différemment. Et le livre n'est pas une réflexion sur l'engagement, mais plutôt nous permet de vivre l'expérience de l'engagement, deux expériences de l'engagement. Alors on va commencer par ces personnages. On a tellement l'impression d'être avec eux pendant tout le livre que je voulais d'abord savoir d'où ils viennent. Alors vous donnez quelques clés par rapport au personnage de Elle à la fin du livre, des clés qui vous ont inspiré. Et pour Antoine, je me suis dit que vous deviez en connaître des Antoine.
D'une certaine manière, je pense qu'Antoine, il n'est pas si différent de moi, tout simplement, puisque son expérience de transfuge, l'expérience de venir de la campagne, d'avoir été considéré comme un garçon brillant pendant tout le début de sa scolarité et à un moment donné d'être précipité dans l'enseignement supérieur parisien extrêmement élitiste des classes prépa puis de Sciences Po, c'est quelque chose que moi-même j'ai connu, sauf que donc moi je
j'ai fait la confusion pour ça.
Oui, c'est oui. Ça. Et puis, oui, c'est vrai que j'ai vu aussi, justement, pendant mes années à Normale, j'ai aussi vu ces jeunes étudiants qui partaient très tôt s'engager dans le monde de la politique, en allant travailler pour des employeurs qui recouvraient pas l'ensemble de leurs aspirations politiques, loin de là, mais par une sorte de... aussi, finalement, par une sorte de facilité. C'est que là où il y avait des emplois stables et une promesse de reconnaissance sociale, de reconnaissance financière aussi, c'était chez ceux qui appartenaient déjà à l'Empire. Et donc, quand bien même cet empire pouvait paraître sclérosé, poussiéreux, paresseux, installé, etc., l'idée de tout remettre en, jeu pour aller faire de la politique hors des institutions, c'était trop dangereux. D'autant plus dangereux qu'on est, comme Antoine, un transfuge de classe. Et que ça veut dire que pour arriver là où il en est, pour arriver à Paris, au stade d'études, etc., qu'il a fait, il a demandé des sacrifices à sa famille. Il a demandé des sacrifices financiers. Il s'est éloigné aussi. Il a quitté la Bretagne alors que ses parents le voyaient bien faire toute sa vie dans le coin. Et donc, d'une certaine manière, il a l'impression qu'il leur doit ce poste, quand bien même ce poste est un peu ennuyeux et extrêmement frustrant.
Compromettant par rapport à ses idéaux ou...
Alors, compromettant, non, parce qu'Antoine, il a vraiment il a un discours qui est prêt pour que, quand ses amis, justement, se moquent de lui, lui disent que finalement c'est un planqué, que c'est un peu un vendu et tout ça, il va expliquer que... les actions qu'il a pu mener dans la rue avec ce groupe d'amis, les manifestations, les sit-ins, les occupations, etc. Ça fait du bien sur le moment, mais quel effet ça a produit? Alors que si on essaye vraiment d'entrer dans les machines d'État pour en actionner les leviers, certes, la lenteur de l'appareil d'État est désespérante, mais en même temps, la puissance de l'appareil d'État, si on réussit à l'actionner, ça reste un vrai rêve. Donc il arrive à se dire que il est pas compromis en faisant ça. En tout cas, pendant une grande partie du livre, il se dit qu'il est à la bonne place, qu'il y a des ajustements à faire, que peut-être il faudrait qu'il entraîne un peu plus son employeur dans telle ou telle direction. Mais dans un premier temps, lui peut se raconter que ça va.
Et pourquoi le PS ? Il aurait pu être un assistant parlementaire d'un élu LREM, par exemple, ou...
Alors, En Marche, c'est une formation qui est très récente. Ça fait partie de ce côté rassurant du poste aussi. Le PS a toute une histoire. C'est une vieille maison. Et comme c'est une vieille maison, c'est aussi une maison dont l'étiquette est un peu plus reconnue. Enfin, quand Antoine commence, il n'y a pas encore En Marche. Et puis, il ne va pas aller à droite parce qu'il est de gauche. Donc finalement, le PS est suffisamment à gauche pour que ça puisse marcher. Et puis, ça a ce côté vieille maison respectable. Et c'est ce qu'il dit dans le premier chapitre, en fait, c'est une qui s'appelle Introduction survol biographique, où on traverse un peu justement l'histoire de son engagement auprès du député. Il dit avant 2017, avant l'éclatement, le PS c'est aussi la promesse de tout un nombre de victoires électorales. Et donc c'est de se dire, certes, je ne fais pas exactement ce que je veux, mais au moins je suis dans un parti qui peut gagner des choses. Donc les choses se compensent.
Et j'ai oublié de préciser dans ma présentation du livre que le livre se passe quasiment contemporain du moment où vous parle, puisqu'il se passe en 2018, grosso modo.
Fin 2018 jusqu'au printemps 19.
Et on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs du fait que vous attaquez finalement. Une actualité relativement récente. Antoine, alors vous le disiez, par rapport à votre propre parcours, il arrive donc de Bretagne, il arrive en classe préparatoire, et là, d'une certaine manière, il perd confiance en lui-même.
Oui, parce que... Il y a deux chocs. Le premier, c'est de s'apercevoir que cette classe moyenne dont vous avez parlé en le présentant, cette classe moyenne, qui en fait dans son village était une classe supérieure, devient une classe inférieure quand il est dans une prépa parisienne. Donc il y a cette incertitude sociale et puis cette compréhension soudaine que la classe moyenne, ça n'est pas une position de moyenne et donc d'équilibre, c'est être toujours le riche des pauvres et le pauvre des riches. Donc il est un peu obligé de réfléchir de nouveau à quel est son statut, en fait, et quel endroit, quelle place est la sienne dans la société française. Et puis, il y a ce bouleversement aussi d'être le garçon à qui on a toujours rendu des bulletins en disant C'est un garçon avec des facilités, sans qu'il ait besoin de travailler, et qui se retrouve en fait à enchaîner des notes déplorables, qui se retrouve aussi en fait à vivre avec des gens qui ont tous vécu dans des pays étrangers, donc qui ont une familiarité avec certaines cultures, certaines langues, des gens qui sont allés au musée, qui sont allés au théâtre, qui ont eu une pratique culturelle que lui n'a pas du tout. En fait, si on parle en termes bourdieusiens, il réalise qu'il savait déjà qu'il n'avait pas le capital financier, il réalise qu'il n'a pas le capital culturel non plus, et qu'en fait, il est en retard. Et toute l'image qu'il avait de lui en grandissant, voilà, celui d'un garçon avec des facilités, celui d'un garçon un peu tout le temps au-dessus des autres, se retrouve vraiment éclaté en mille morceaux quand il commence la prépa.
Et vous expliquez que face à cette distance de classe, face à la bourgeoisie, il slalome entre trois sentiments. La déférence, parce qu'il est quand même inquiet de sa position, une forme de colère, parce qu'il considère que finalement ça vaut pas le jeu ne vaut pas forcément la chandelle, et la colère, la défense, et une fierté, voilà, d'être parvenu. Et ça, ce triangle des sentiments, ça vient de vous ? C'est des sociologues, des psychologues ? Je me suis demandé.
Non, c'est moi qui me suis amusée.
Voilà, d'accord.
C'est moi qui me suis amusée. Vous êtes
de la géométrie
à faire ça. Oui, bah parce que je pense que justement, une chose qui est assez amusante, finalement, quand on occupe la place de narratrice, c'est qu'on peut. On peut produire des analyses sur le personnage que le personnage n'a pas forcément sur lui-même. On peut mêler les analyses qui viennent d'autres personnages aussi. Mm-hmm. Et en l'occurrence, Antoine, il a été en couple pendant plusieurs années avec une femme qui s'appelle Cécile, qui est très, très fan de schémas de psychologie. Ça rassure prodigieusement Cécile de pouvoir, comme ça, faire des schémas et de faire rentrer tous les gens comme ça dans des schémas psychologiques. Et donc, c'était elle qui avait dressé le fameux triangle d'Antoine. Et en réalité, voilà, évidemment, c'est pas Cécile, c'est moi qui me suis, suis amusée à faire ça, à réfléchir. Justement, à partir du moment où je me suis dit mon personnage est un transfuge de classe, qu'est-ce qui va définir dans ses émotions le transfuge ? Et j'en étais arrivée à ce triangle. Comme tout schéma explicatif, c'est un peu simpliste, je me suis dit, OK, j'ai pas envie de moi de le prendre en charge dans la narration et d'imposer à mon personnage un fonctionnement uniquement triangulaire. Je vais le faire passer par Cécile, dont c'est la passion. Mais alors que Cécile n'apparaît jamais dans le livre, je peux mettre
sur pied ce triangle. Il y a un personnage aussi qui n'est pas au premier plan comme Antoine et elle, mais c'est l'ami d'Antoine, Xavier, qui lui est resté, a fait le choix de rester en Bretagne, dans une ferme autogérée, on va dire. J'ai eu l'impression qu'Antoine avait un peu de condescendance par rapport à Xavier, je me trompe, ou il n'est pas complètement à l'aise quand il retourne voir son ami, est-ce que...
L'expression que j'utilise dans le livre, c'est de dire que Xavier est devenu son kilomètre zéro.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que le fait que Xavier soit resté, c'est la borne à partir de laquelle Antoine peut mesurer, lui, toutes ses avancées. Et il y a cette idée aussi de comment est-ce qu'il est possible de maintenir une amitié alors qu'en fait, les deux sont convaincus que l'autre a fait des mauvais choix et que l'autre a échoué. Xavier pense qu'Antoine s'est vendu. Et Antoine pense que, en fait, l'organisation de la vieille ferme, c'est juste la conséquence des échecs de Xavier, qui était parti à Lyon pour faire des études, qui est revenu en fait très rapidement. Et Antoine est persuadé que c'est parce que Xavier était nul dans ses études, incapable de s'adapter à une grande ville, incapable de changer de monde, d'évoluer, etc., qu'il était finalement tristement monolithique et qu'il a eu peur. Et que c'est pour ça qu'il est revenu à la vieille ferme. Et donc, évidemment, il y a cette conversation aussi sur les modes d'organisation qui ne peut pas tout à fait avoir lieu. Parce que tout ce que Xavier présente à Antoine comme des expérimentations hyper intéressantes, de dire, en fait, à la ferme, on peut faire ça, on peut essayer de travailler pour éliminer les hiérarchies, on peut essayer de travailler à plus avoir de violence genrée entre les hommes et les femmes, on peut... Et tout ça, pour Antoine, c'est C'est uniquement un joli discours d'excuses, certes bien ficelé, mais qui est là juste pour masquer les lambeaux d'échecs qui entourent l'existence de Xavier.
Il est dur, hein, Antoine.
Il est dur. Ouais. Mais parce qu'il est très dur avec lui. Lui-même. Il est très, très dur avec lui. Donc évidemment, ça déteint un peu.
Quant à elle, donc je disais tout à l'heure, c'est une hackeuse. Alors comment vous êtes... Voilà, vous avez envie de... Vous avez beaucoup travaillé. Il y a beaucoup d'informations sur ce monde, a priori, un peu clandestin, un peu caché. Et pourquoi ça vous a intéressé, cette façon d'essayer d'agir sur le réel, de manière clandestine et par le numérique ?
Alors, c'était une histoire que je connaissais très, très mal avant d'écrire le livre et qui ne faisait pas partie des premiers éléments que j'avais quand j'ai commencé à écrire. Et ça, c'est assez curieux pour moi de me dire, elle est arrivée. Comme tout personnage de pirate devrait arriver, c'est-à-dire qu'elle est arrivée par les algorithmes. Puisque j'avais passé des années à regarder des documentaires sur la guerre d'Algérie pendant que j'écrivais L'Art de perdre, et un des documentaires qui m'a le plus marqué, c'est L'ennemi intérieur de Rothman. Donc j'ai commencé à regarder les autres documentaires de Rothman, et notamment celui sur les brigades internationales et la guerre d'Espagne. De là est né l'envie d'Antoine d'écrire sur la guerre d'Espagne. Et au bout de 3 ans, en fait, à regarder des documentaires politiques, toutes les choses sur Internet étant reliées les unes aux autres et avalant mes données pour dresser un profil de moi, YouTube a commencé à me suggérer des documentaires engagés. Et un soir où j'avais vraiment rien de mieux à faire, j'imagine, j'ai fini par cliquer sur We Are Legion, un documentaire sur Anonymous. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais cette histoire est absolument fascinante et je ne comprends pas qu'on ne me l'ait jamais racontée. Comme si, en fait, elle appartenait vraiment à un monde à part, à un univers parallèle. Comme si cette
vision la littérature s'en était pas saisie, en fait.
Non, et ça, c'était d'autant plus frustrant qu'en fait, le cinéma le faisait, les séries le faisaient, et le faisait pas bien, en plus, à mon avis. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à bosser sur le sujet, donc après ce documentaire, j'ai acheté un ouvrage de Gabriella Coleman sur Anonymous, mais aussi sur différents groupes de hackers et de
Gabriella Coleman, vous pouvez nous rappeler qui elle est. Vous saluez ses travaux à la fin.
Gabriella Coleman, c'est une anthropologue qui fait des recherches sur les modes d'organisation des groupes de hacktivistes, donc des groupes d'activistes en ligne.
Activistes, c'est vrai, voilà. Parce que c'est pas
activiste. Et ça, son livre, qui est sa thèse, c'est absolument merveilleux, parce que justement, elle traite le sujet en tant qu'anthropologue. Donc ce qu'elle va nous décrire, c'est pas une succession d'actions informatiques, c'est la formation d'une culture. Comment une culture de groupe se forme, avec quel rituel, avec quel vocabulaire, avec quel sens de l'humour, avec quelles images partagées qui servent de marqueurs de reconnaissance, etc. Et ça, je trouvais ça absolument génial. Et puis surtout ce qu'elle décrit, ce que ce premier documentaire décrivait aussi, c'est un collectif total. C'est un collectif sans nom et sans visage, et qui essaye aussi justement d'abolir les formes de hiérarchie. Finalement, c'est un collectif qui fonctionne sur l'idée de douocratie, donc qui est une notion d'organisation politique où finalement, tous ceux qui peuvent faire quelque chose, qui ont envie de faire quelque chose, sont libres de pouvoir le faire. On n'a pas besoin d'autorisation, on n'a pas besoin d'avoir un statut, un certain poste, etc. Donc dans le domaine d'Internet, ça veut dire l'idée de l'open source aussi. Si on ne dépose pas des brevets de propriété intellectuelle, quand on fait un logiciel, on le laisse ouvert pour que tout le monde puisse venir bricoler dedans, l'améliorer, etc. On ne demande pas à quelqu'un sa carte de visite, son CV, avant qu'il ait le droit de venir bricoler. Et finalement, ce n'est pas du tout différent de ce que Xavier fait à la vieille ferme. Le système de duocratie, moi, c'était quelque chose que j'avais rencontré dans des festivals punk, dans des choses hyper éloignées d'Internet, des choses dans lesquelles les ordinateurs n'avaient rien à faire là. C'était, tu as envie de construire une cabane. Burning Man, par exemple, un des plus gros festivals états-uniens, fonctionne sur ça, sur ce principe de la duocratie. Vous avez envie de vous construire un déguisement, d'aménager une roulotte et de proposer telle activité, vous le faites, en fait. Mm-hmm. Et tout ce qui va déterminer que vous preniez part ou non au festival, c'est est-ce que votre roulotte va péter en route ou non. Si elle tient, vous faites partie du truc. Et donc, voilà, cette forme de faire ensemble me paraissait aussi être complètement bousillé parce que Hollywood en faisait. Puisqu'on recréait tout le temps des figures de super-héros à cœur.
On personnalise.
Et d'une certaine manière, Millennium avait fait ça aussi. C'est-à-dire que Lisbeth Salander, c'est un immense personnage de hackeuse, je l'adore, c'est un souffle romanesque de dingue, mais en fait, il n'y a pas de grande différence entre Lisbeth Salander et Harry Potter. C'est une nana qui a des super pouvoirs, elle peut tout faire, et puis, quand c'est trop la merde, une fois qu'elle a lancé une action absolument dingue, elle prend sa moto et elle s'en va. Et moi, elle, qui n'a finalement de Lisbeth Salander que la première lettre, c'est une sorte de version cheap, c'est une version du pauvre, et ben, déjà, sur Internet, elle n'arrive pas à faire toutes les actions. Il lui faut des collectifs pour avoir une puissance de frappe. Toute seule, elle n'est pas si forte que ça. Et puis, elle n'a pas de moto, elle a un vélo pourri, elle se coince le doigt à chaque fois qu'elle essaye de mettre l'antivol. Et c'était aussi de dire, du coup, c'est un personnage de pirate qui est coincé dans ce qu'elle appelle la vie endosphère. Qui est coincée quoi, dans la vie de son corps, dans sa vie matérielle. Elle ne peut pas disparaître dans un autre pays, se faire exfiltrer par un gouvernement, par un truc. Ses actions, elles ont des conséquences. Tout ce qu'elle va faire dans le dedans peut avoir des conséquences dans le dehors.
Et son compagnon a été arrêté. Elle est confrontée aux conséquences aussi.
Et quand le livre commence, elle se confronte à la version la plus violente des conséquences d'un acte de piratage, c'est-à-dire avoir 6 flics qui viennent frapper à la porte au petit matin pour arrêter son mec. Donc,
Et elle est aussi, on sent un peu de désillusion chez elle par rapport à Internet, par rapport à l'évolution d'Internet, par rapport à l'évolution du hacking. J'ai relevé, je crois que c'est dans une lettre qu'elle adresse à Antoine, si mes souvenirs sont bons, elle écrit « Les hackers, c'était ceux qui utilisaient la technologie pour autre chose que ce qu'on leur avait dit qu'ils pouvaient faire avec. Il y avait un côté bricolage protestataire. Aujourd'hui, quand on dit hacker, ça fait surtout penser à 3 trucs. » Des youpies en t-shirt de coton bio, des unités spécialisées rattachées au complexe militaro-industriel et les Russes. C'est vrai qu'aujourd'hui le hacking a changé est passé de la clandestinité à des formes de manipulation dans la représentation collective.
Et les représentations sont terrifiantes. Et c'est ce qu'elle explique un peu en longueur dans le mail. Donc elle aussi, en disant, voilà, Hollywood ne nous aide pas du tout, en fait, parce que ça donne l'impression que le hack, c'est vraiment quelque chose qui appartient à une poignée d'individus qui sont tellement doués qu'ils sont sortis de l'humanité. Mais oui, il y a aussi cette chose qui est... Il y a quelques moments dans la vie du piratage où on peut entendre parler des pirates d'une manière positive. Snowden.
Ouais.
Avant ça, Assange, avant que ça vrille. Avant, à peu près au même moment, plusieurs actions d'Anonymous. Mais comme personne ne sait très bien ce que font les pirates, c'est facile de transformer ce tout récit des pirates en récit absolument terrifiant. C'est quelque chose que j'ai pas fait apparaître dans le livre, mais par exemple, Anonymous, au moment où ils apparaissent, ils ont un soutien populaire qui est assez fort. Parce qu'en réalité, ce qu'ils font est chouette. ce qu'ils font est chouette. Et puis, ils se sont vraiment dotés donc, de ce qu'eux appellent un département de props, donc de propagandistes, pour pouvoir parler eux-mêmes de leurs actions, pour ne pas laisser d'autres gens mettre des mots sur ça. Donc, c'est les premières vidéos de Anonymous dans les années 2000. Je ne sais pas si vous avez les souvenirs de ça.
Quelques-uns, mais je ne me souvenais pas que c'était déjà si... ancien
Ouais, c'est le milieu des années 2000.
Ouais, ouais. Non, ça, je l'ai mesuré en lisant votre livre. Parce que c'est...
Et pour renverser un peu cette vapeur, mmh. pour enlever le côté cool qui va avec le collectif de pirates, le gouvernement américain commence à raconter qu'en fait, ils vont hacker des centrales électriques et des centrales nucléaires. Ce qui n'a jamais été débattu. Alors, pour le coup, voilà, Gabriella Coleman, qui a épluché tous les forums sur lesquels elle traînait, elle dit, mais les seuls moments où ces attaques ont été débattues dans les groupes, c'est pour commenter les propos du gouvernement. Et c'est pour faire des blagues sur les propos du gouvernement en disant, ah bon, les gars, en fait, on a un projet d'attaque de centrale électrique. Je ne savais pas, c'est génial. On est, en fait, beaucoup plus puissant que ce qu'on s'imaginait, etc. Donc, il y a ce récit de la peur qui vient totalement fausser le monde des pirates et qui efface ce côté qui est génial du piratage, qui est ce côté du bricolage. Puisque si on enlève le côté du bricolage, à quoi on en arrive, en fait, dans l'utilisation des technologies ? On en arrive vraiment à une vision un peu olympienne, c'est-à-dire que les GAFAM, ce seraient les dieux de l'Olympe qui possèdent le feu, mm-hmm. et ils donnent aux hommes une flamme de temps en temps, mm-hmm. Mais les hommes n'ont pas le droit de faire le feu eux-mêmes. Et puis s'il y a des Prométhées qui essayent de dire « Oui, mais en fait, quand même, comme nous, on en a besoin pour se chauffer, mm-hmm. donc du coup, on voudrait bien avoir le feu en entier et pas juste les trois braises », ça se passe très mal, puisque maintenant, justement, ces technologies, elles fonctionnent de plus en plus comme des choses qui sont protégées, déposées. Vous ne pouvez pas ouvrir un iPhone. La technologie d'Apple est faite mm-hmm. pour que l'utilisateur ne puisse rien faire d'autre que ce que le concepteur et le fabricant ont prévu qu'ils fassent. Ce qui veut dire aussi que, c'est très très triste, que ces smartphones et ces ordinateurs occupant de plus en plus de place dans nos vies quotidiennes, on fait tous les mêmes gestes pour lesquels on est préprogrammé par les appareils eux-mêmes, puisqu'on ne peut pas modifier les appareils à notre convenance, que ce soit en hardware ou en software, c'est-à-dire donc soit sur le matériel même, soit dans les logiciels qui sont installés dessus. Et il y a un appauvrissement terrible de ça. Alors qu'elle dit, mais moi, j'ai connu Internet à un moment
parce qu'en fait,
on croyait que c'était
Elle a connu toute l'histoire d'Internet. Ouais. Vous parlez des modems. Oui.
On croyait que ça allait être un continent de liberté absolue, où tout pourrait être polymorphe, tout pourrait tout le temps se déployer. Où elle dit aussi, ça pouvait être l'endroit où une femme comme moi pouvait ne pas avoir de corps et ne pas avoir de conditions sociales. Sur Internet, donc dans le dedans, pour elle, c'était pas grave d'être une femme, d'être arabe, d'être pauvre et d'être banlieusarde. En fait, on pouvait tout être. Et finalement, ce qu'elle voit dans la dernière décennie, c'est que non, cette utopie-là, elle existe pas.
Il y a un retour des appartenances.
Internet duplique des oppressions qui ont lieu dans le monde physique. Et donc, va opprimer les femmes bien plus durement que les hommes, les pauvres bien plus durement que les riches, etc. Et que sur Internet, comme dans n'importe quelle grande ville, c'est les grosses compagnies qui font la loi, c'est les grosses compagnies qui peuvent avoir des milices, c'est les grosses compagnies qui sont protégées par les forces de l'ordre, elle dit à Antoine, en fait, Internet, il faut y penser comme une ville qui se gentrifie. Nous, si on vit dans les égouts et les terrains vagues, c'est pas par choix. C'est qu'au début, on avait l'impression qu'on pouvait tout occuper. Et puis, finalement, les grosses boîtes sont arrivées. Elles ont dit non, ceci est à moi, ceci est à moi, ceci est à moi. Elles ont protégé tout leur terrain. Et nous, pour pouvoir exister comme on veut exister, pour pouvoir exister... Dans cette utopie de ce que devrait être Internet, il faut qu'on prenne les derniers endroits qui ne sont pas encore protégés. Et ça veut dire le dark web, ça veut dire côtoyer avec des choses pas jolies. Mm-hmm. Mais là, finalement, je ne parle pas énormément du livre, mais je pense que je peux parler 6 heures.
Alors on va y revenir.
C'est
vrai que c'est vraiment l'une des choses très intéressantes quand on lit le livre. C'est vraiment une immersion aussi dans cet univers. Qui par définition est peu connu, puisque voilà le hacking par principe ne se fait pas à la lumière. Et d'ailleurs, vous parliez de vocabulaire, c'est vrai que moi j'ai appris beaucoup le doxing, les props. Donc, et justement, alors c'est une question que je voulais vous poser par rapport à l'aspect de documentation. Le livre est très en phase avec la société, l'actualité contemporaine. Il y a les questions de gilets jaunes, de nuit debout. Comment on se saisit du réel quand on est romancière avec le... Finalement, Antoine, qui veut parler de la guerre d'Espagne, c'est moins risqué pour lui, parce que c'est plus facile, a priori, d'aborder un sujet qui était très documenté, alors que là, on est un peu dans l'émotion du moment, et la perception. Est-ce que, justement, vous écrivez, peut-être, pour mieux comprendre le... ce qui se passe depuis un an, deux ans, trois ans ?
J'écris à la fois pour mieux comprendre et pour avoir le temps de ne pas comprendre.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que j'ai...
Ah, je comprends ce que vous voulez dire. Par rapport à la forme.
J'ai l'impression que dans le roman, mm-hmm. par l'expérience sensible, je peux aussi créer des temps qui sont des temps de suspension, mm-hmm. de jugement. Où j'ai pas d'avis à avoir, j'ai pas d'opinion à avoir sur le mouvement des Gilets jaunes ou sur... Je peux dire aussi que je sais pas. Je peux détailler ce que ça produit comme effet, comme effet purement sensible, mais sans avoir à mm-hmm. produire une analyse d'un mouvement qui vient à peine de naître et dont finalement je sais pas grand chose. Et ça, c'est vrai que sur les Gilets jaunes, c'était quelque chose qui me terrifiait un peu, en fait, de voir très rapidement, tout le monde avait un avis. Mm-hmm. Et donc, moi, je vis dans la campagne bretonne depuis 4 ans. Et en fait, moi, l'apparition du mouvement, je ne pouvais pas dire qui étaient les Gilets jaunes, parce qu'à chaque rond-point, ce n'était pas les mêmes. Il y avait des Gilets jaunes sur un rond-point qui m'avaient l'air clairement d'extrême droite. Et puis, j'allais au rond-point d'après. Et puis, en fait, c'était beaucoup plus un rond-point de zadistes en soutien à NDDL. Et puis, un autre rond-point, c'était contre les fermetures de maternité. J'avais aucun avis de ce qu'était le mouvement des Gilets jaunes. Et j'arrivais après à Paris. Et là, j'avais l'impression que tout le monde avait un avis, quoi. Tout le monde disait, voilà, il est en train de se passer ça, ça aura ça comme conséquence. Et je ne pouvais pas le faire. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'en fait, Antoine a un peu une seule phrase qui tourne en boucle, qui est « je crois qu'il se passe quelque chose mm-hmm. ». Mais il n'est même pas sûr de ça, et il ne sait pas ce que c'est. En revanche, ce qu'il peut dire, c'est que voilà, quand il est plongé à un moment donné dans une manifestation, qu'il se retrouve dans cette folie furieuse des charges entre policiers et manifestants sur les Champs-Élysées, avec un immeuble qui brûle, avec l'impossibilité en fait de voir quoi que ce soit, d'entendre quoi que ce soit au milieu des cris, des gaz. Il peut dire, ok, je n'ai jamais vécu ça. Mm-hmm. Je crois qu'il se passe quelque chose de nouveau. Mais c'est tout. Mm-hmm. Et après, de là, voilà, s'il essaye de tirer un peu le fil, de dire, bon, mais s'il se passe quelque chose de nouveau, on ne peut pas se permettre de ne pas accompagner ce mouvement-là. Mais il n'a aucune étiquette, en fait, à poser sur ça. Il a juste une espèce d'accumulation de données sensibles. Et j'aime... Voilà, j'aime dans le roman cette possibilité aussi de re-rentrer dans le monde par le corps, mm-hmm. En disant j'ai pas à produire un édito mm-hmm. sur tout ce qui arrive à ce corps plongé dans l'événement.
Et le choix d'une forme assez longue, on va dire, qui justement donne le temps, de la nuance, dans l'approche, on n'est pas dans une approche journalistique ou pas du tout. Même si c'est un roman qui est nourri d'observations très concrètes et très très vérifiables, mais
oui, bah, le temps long qu'on passe avec un livre, alors évidemment il est démultiplié quand on l'écrit, mais même ouais, même celui qu'on passe quand on lit un livre, c'est une expérience une expérience qui me permet après de revenir au monde de manière plus claire.
Et c'est agréable de justement d'essayer de comprendre des microcosmes comme ça, qui sont le microcosme parlementaire ou le microcosme du hacking, de vivre un peu leur vie.
Bah, évidemment.
Oui, je me doutais un peu de la réponse. Sinon, vous seriez masochiste.
Ouais. Non, mais je trouve que c'est vraiment, Je trouve que c'est une des beautés incroyables de... Alors, du métier, c'est, métier est toujours bizarre, mais de, oui, du métier d'écrivaine, c'est cette possibilité-là, en fait. C'est que je peux vraiment traverser des vies qui sont éloignées de la mienne. Je peux apprendre, et on en revient aussi à ce que je disais de l'anthropologie, en fait, parce que finalement, c'est la même chose, que ce soit sur le milieu du HAC ou celui de l'Assemblée nationale. C'est de réussir, oui, à comprendre comment, comment un champ fonctionne. Et quelles sont les choses que je peux en voir de l'extérieur, mais si j'essaye d'entrer, c'est quoi les codes qui sont pas écrits, le truc qu'on nous remettra jamais, voilà, c'est le carnet de liaison avec le code de bonne conduite, on l'aura jamais, mais eux, entre eux, ils savent que ces choses-là ne se font pas, que ce territoire appartient plutôt à un tel ou à un tel, qu'on ne dit pas ça, qu'on ne fait pas ça, que les existences sont réglées d'une certaine manière, à la fois dans le temps et puis dans, les, enfin dans, dans, dans les espaces. Voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé fou quand je suis allée visiter les bureaux du 101 rue de l'Université, donc les bureaux de l'Assemblée nationale, mais dans l'immeuble neuf, pas dans le vieux Palais Bourbon, de voir voilà, c'est quoi les espaces dans lesquels les assistants parlementaires se croisent. Les espaces dans lesquels les députés vont, mais en fait les assistants parlementaires n'ont pas le droit d'y aller parce qu'ils n'ont pas le bon badge, dans lesquels les visiteurs peuvent passer, mais en fait pas ceux-là non plus parce qu'ils n'ont pas le badge, etc. Donc tous ces, voilà, tous ces cloisonnements, ces manières de s'organiser, le fait que finalement les fumeurs transgressent beaucoup plus les frontières de partis politiques que les non-fumeurs, parce que le jardin fumeur, il est tout petit, et que du coup, tous les partis s'y retrouvent pour fumer, et donc au bout d'un moment, t'as pas une clope, t'as pas du feu, etc. Donc quand on est fumeur, c'est beaucoup plus facile d'avoir un lien PS-républicain que quand on l'est pas. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, c'est passionnant, quoi, pour moi, de pouvoir apprendre à les connaître, de pouvoir avoir l'impression que je peux m'y faufiler pendant quelques instants.
Alors, on ne va pas révéler la fin du livre, ça serait idiot, mais on peut dire quand même que finalement, ils ne vont pas au bout de leurs aspirations. Non ? En tout cas pour l'un des deux personnages, non ? Ah. Voilà, il y a un désaccord sur le... Mais... En tout cas, il ne renonce pas. Ça, et donc, je trouve que vous avez un regard assez tendre, finalement, sur ces deux personnages.
Oui, ouais, mais j'avais pas envie... Enfin, il y a ça aussi, c'est-à-dire... évidemment, je voulais parler... En fait, je voulais parler de leur insatisfaction. Et de l'insatisfaction qui est à la fois la cause de l'action politique et en même temps qui est produite en permanence par l'action politique. C'est-à-dire que si Antoine et elle, ils mènent la vie qu'ils mènent, c'est parce que le monde ne les satisfait pas. Un certain état du monde ne les satisfait pas. Et finalement, toutes les insatisfactions, elles se mélangent, quoi. Ça peut être à la fois le fait de voir, donc, de voir Bruno, qui est ce gilet jaune qu'Antoine croise dans une manifestation avec l'énorme hématome laissé par un tir de LBD, de dire, voilà, cela ne me va pas. Mais c'est aussi, pour Antoine, l'insatisfaction, simplement, de se dire, j'avais écrit un putain de beau discours, et parce que la REM a la majorité, de toute manière, ce que mon député va faire de ce discours dans l'hémicycle, ça ne sert à rien, cela ne me va pas non plus. Pour elle, c'est cette chose de se dire, le dedans est devenu un Far West pour les femmes, notamment donc avec la vente de logiciels de surveillance, de logiciels espions.
Oui, d'autant qu'elle aide beaucoup des femmes qui sont harcelées.
Ben c'est ça, donc de se sentir, elle, obligée de mettre en commun ce qu'elle sait faire pour se protéger. Donc elle va aller protéger d'autres femmes et de dire « Ok, ça ne me va pas, ça ne devrait pas se passer comme ça. En fait, je ne devrais pas être en train d'aider une femme, puis une autre. Il faudrait pouvoir cibler les entreprises qui se font de l'argent en vendant ces logiciels de surveillance. » Et cette insatisfaction... Elle va aussi déteindre tout le temps sur leurs actions. Ce que je fais n'est pas assez. Je sais que ce que je fais n'est pas assez. Mais évidemment, j'ai une tendresse profonde pour mes personnages parce que ce ne serait pas vrai de dire qu'ils ont la possibilité de changer complètement de vie pour pouvoir changer complètement le monde. Ça n'est pas vrai. Ils sont pris dans des... Ils sont pris dans des réseaux, enfin de tout. Alors Antoine, il balade sa peur de transfuge. Elle balade sa peur de la grande arrestation avec des majuscules. Mais ils baladent aussi, évidemment, leurs attachements personnels. Antoine, la peur de décevoir ses parents, mais aussi l'attachement qu'il a créé pour le député au fil du temps. Cette relation assez...
Député assez cynique, hein. Assez lucide, on va dire. Assez lucide. Quand tu dis, moi, je suis hors sol...
Mais du coup, il y a une honnêteté.
Oui, absolument.
Antoine peut se dire, au moins, je ne suis pas avec un type qui fait semblant. Oui, enfin, je suis avec... Et il a l'impression que le député lui laisse des portes ouvertes. Et puis, il le dit lui-même, quoi. Il est très étonné de ça, mais il s'est attaché vraiment aussi à cet homme. Donc, ce n'est pas si facile que ça de partir en claquant la porte. Elle a son mec qui est en prison. Donc, l'avocat d'Elias lui a dit qu'elle devait faire extrêmement attention, en fait, à ce qu'elle faisait dans les prochains mois. Parce que, évidemment, ce serait susceptible de nuire à Elias avant son jugement. Donc, elle est coincée aussi par cet amour. Et donc, finalement, je ne pouvais pas écrire l'histoire de personnages qui se seraient défaits comme ça de tout leur fardeau pour aller mener une action plus grande, plus explosive. Ou alors j'écrivais à nouveau des histoires de super-héros. Et des histoires de super-héros qui auraient, d'une certaine manière, aussi été un peu des salauds. Qui auraient été capables de se défaire de toute attache personnelle pour faire un immense coup d'éclat, et peu importe le mal causé aux autres autour d'eux.
Très bien. Alors, je vous encourage à lire Comme un empire dans un empire, d'autant que la dernière scène est très très belle.
Merci. Les autres d'avant sont un peu ratées, mais tenez juste
non. Et je le dis parce
la dernière, elle est vraiment jolie.
Elle est marquante. Elle est marquante. Ils choisissent un peu de vivre, en fait. Hein. En tout cas, moi, c'était ma lecture. Il est 18h45. Il nous reste une dizaine de minutes. Peut-être on peut parler un peu de vous. Vous avez déjà, parlé de votre parcours. Alors, une question que je me posais. Vous-même, vous avez une expérience du militantisme ?
Non.
Ah non, d'accord.
Ou alors il faudrait qu'on redéfinisse militantisme.
Oui, vous n'avez jamais, dans un parti, un syndicat ou une association comme ça de active. Non.
Non.
D'accord. Ok. Je me posais la question en lisant le. Et alors, je disais tout à l'heure que votre premier texte a été publié alors que vous aviez 16 ans. Et vous écriviez depuis quel âge
Depuis que je savais écrire.
D'accord. Et vous savez pourquoi, comment
C'était un jeu. C'était un jeu qui était simple. D'une certaine manière, c'est aussi. Je trouve que c'est quelque chose qui va terriblement bien avec l'enfance. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression, en tout cas, que mon enfance, c'était une conjugaison entre mes délires de toute puissance, de tout était possible, le monde était grand ouvert, et puis une expérience quotidienne de la frustration, puisque en fait je pouvais pas faire 90% des choses que j'aurais eu envie de faire, parce qu'elles étaient dangereuses ou réservées aux plus grands, etc. Et finalement, prendre un papier et un crayon, ça j'avais le droit de le faire tout le temps, c'était facile tout le temps, ça demandait presque zéro préparation matérielle, et puis en écrivant, je pouvais tout être. Donc je pouvais totalement m'arracher à ce petit corps d'enfant qui limitait mes possibilités. Je pouvais être Robin des Bois, je pouvais être une princesse, je pouvais être un monstre, je pouvais être un ordre de chevalier à moi tout seul. Donc oui, ça faisait partie des jeux qu'on pratiquait avec mes sœurs.
Ah voilà, vous faisiez pas ça seul.
Non, au départ, c'était un jeu commun. On se passait des textes, on réécrivait des bouts, on réécrivait les livres qu'on lisait et qui nous laissaient insatisfaites. On remettait nos personnages au milieu, parfois juste pour se dire ce livre est très bien, mais qu'est-ce qui manque ? Nous, bien sûr. Le moment où les trois sœurs zénitaires arrivaient en disant on va vous aider, on sait où est l'épée. Et donc, il y avait quelque chose d'assez génial, quoi, de pouvoir faire ça. Et j'ai jamais arrêté, tout simplement. J'ai jamais arrêté. En fait, mon premier livre publié, c'est mon premier livre fini. D'accord. Parce que je pense qu'entre mes 7 et mes 15 ans, ça a été ça, l'impossible. C'était réussir à finir une histoire. Et donc, ouais.
Et aujourd'hui, ça vous est plus facile de finir ?
J'écris la fin quasiment au moment où j'écris le début. Ah, et ouais. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on met au milieu ?
D'accord. Ah ouais, c'est marrant. D'accord. Et il vous a fallu beaucoup de temps, par exemple, pour comme un empire dans un empire. Alors, au vu des événements qui ponctuent comme ça le livre, c'est une genèse assez récente quand même. Ça devait être il y a 2 ans.
J'ai mis 3 ans à l'écrire, mais c'est toujours compliqué de répondre à cette question, parce qu'en fait, par exemple, L'art de perdre, je l'ai écrit en 2 ans, mais je l'ai écrit en 2 ans. En passant vraiment une immense partie de ces 2 ans enfermée chez moi à la campagne où je venais de déménager, où je connaissais personne. Et donc, ça voulait dire, en fait, finalement, une quantité de travail assez considérable. Mm-hmm. Alors que finalement, les 3 ans de Comme un empire dans un empire, ils ont été totalement piratés par le succès de L'art de perdre, qui a bouleversé un peu mon planning d'écriture. Donc... Donc, en fait, c'est 3 ans pour réussir à avoir peut-être dedans 1 an et demi d'écriture et puis autour d'autres choses à faire.
L'art de perdre, ça a été un tournant dans la relation que vous avez avec les lecteurs. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup. On a beaucoup entendu parler du livre, il a eu beaucoup de succès.
Bah oui, oui.
On vous en parle encore
aussi. Non, mais oui, c'est mon tube.
Le premier tube, et ça c'est le deuxième tube. Merci Alice Zeniter.
Ben de rien.
Longue vie à Comme un empire dans un empire.